le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bienvenue sur Radio Imo et bienvenue sur Radio Territoria pour ce deuxième jour du Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et on commence avec la première émission de la journée, la première table ronde. Nous allons parler d'Action Cœur de Ville 2 avec un focus sur les entrées de ville et les quartiers de gare. Et pour ce faire, j'accueille Jean Guioni. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes directeur adjoint du programme national Action Cœur de Ville et fondateur de l'Institut de la Transition Foncière. J'accueille également François Riosec, bonjour.
Bonjour.
On ne présente plus un président de l'UNAM. Et Cassandre Tarvic, bonjour. Ma consoeur rédactrice en chef adjointe de News Tank City. Alors, on va peut-être commencer en préambule par resituer Action Cœur de Ville 2. Hein. C'est vrai qu'en 2017 a été lancé le programme national Action Cœur de Ville qui a duré 5 ans pour redynamiser, hein, renforcer l'attractivité de 234 villes moyennes. À l'époque, c'est 5 milliards hein, qui avaient été investis. 5 ans après, 2022, bien, le bilan a été très bon.
Écoutez, je crois, en tout cas, on a eu des contrôleurs qui d'habitude ne sont pas très tendres avec les politiques publiques, la Cour des comptes, je pense, et d'autres qui nous ont fait des rapports positifs. Surtout, plus sérieusement, ce qu'on a observé, c'est que il y a déjà, on en parle ce matin. Je pense qu'il y a 5 ans, on n'en parlerait pas ce matin. Et les villes moyennes n'avaient pas ni le même attrait du point de vue du développement urbain, ni le même attrait du point de vue de leur capacité à territorialiser la planification écologique et des politiques publiques qui dépassent les seules politiques urbaines. Par ailleurs, ce qu'on observe chaque année, on a essayé de mesurer notre impact, c'est que leur attractivité résidentielle est en croissance. Il n'y a pas nécessairement d'exode urbain, ça a été montré par diverses études récentes. Oui. Ça, j'y reviendrai pas, mais néanmoins, leur attractivité résidentielle est en croissance. Il y a un volume des ventes qui augmente chaque année dans ces villes depuis maintenant 4 ans. Il y a un prix des appartements dans l'ancien et des maisons dans l'ancien qui croît. Et pour nous, c'est utile parce qu'on est dans des secteurs où il faut solvabiliser des opérations qui sont très coûteuses en centre ancien. Et puis, l'attractivité de ces villes-là a progressé assez fortement, notamment l'attractivité des centres-villes. Aujourd'hui, vous avez 62% des gens des agglomérations Action Cœur de Ville qui se rendent dans le centre-ville au moins une fois par mois.
91% des élus se sont dit satisfaits. Alors, c'est Christophe Béchu qui l'avait annoncé en novembre 2022. C'est quand même pas mal de fédérer autant d'élus.
Alors, je pense que c'est un programme qui a réussi à être à la main des élus. C'est un programme qui est profondément décentralisé. Peut-être pour la première fois dans les politiques urbaines, on ne demandait pas aux élus d'avoir un cahier des charges à remplir, d'avoir le public se positionner en investisseur public finalement, avec l'idée que le maire conduit ses projets, ce sont les siens, et lui-même à la main sur l'ensemble du projet. Nous positionnons simplement État, Banque des Territoires, Action Logement, ANA, donc les trois financeurs publics qui nous accompagnent sur ce programme, comme des investisseurs au service de ces projets. Et donc, il n'y a pas de cadrage lourd technocratique préalable au projet. Finalement, au contraire, il y a une sorte de tour de table permanent au niveau du maire, puisque le comité de projet local, c'est lui qui l'anime dans sa ville.
Donc, ça, c'était pour la première phase. En fin 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de lancer la phase 2, qu'on appelle donc Action Cœur de Ville 2, jusqu'en 2026. Ce sera à nouveau 5 milliards investis, hein, c'est bien
exactement,
ça?
Exactement, sur 4 ans cette fois-ci.
Sur 4 ans, donc grâce à l'engagement de l'État et les partenaires financiers, il ne faut pas les oublier. Évidemment, il y aura tout ce qui est changement climatique au cœur des mesures, hein, promotion de la sobriété foncière énergétique. Et alors, c'est Action Cœur de Ville, donc on se focalise, on redynamise le centre-ville. Mais là, il y a une nouveauté pour cette phase 2.
Oui, alors la difficulté, c'est que quand vous avez un chantier qui est aussi pharaonique que celui des centres anciens de toutes nos villes petites et moyennes, et que vous avez commencé le travail sur une petite poignée d'années, la première chose à faire, c'est de ne pas l'arrêter. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne, donc d'où la reproduction des mêmes partenaires financiers qui se sont engagés dans la durée, d'où aussi l'insistance toujours sur le centre-ville. Mais il y a eu la volonté, parce qu'on a observé que les quartiers de gare étaient des quartiers extrêmement stratégiques pour la revitalisation de ces villes-là, parce qu'on a observé aussi que les entrées de ville devaient être les supports du recyclage urbain de demain et qu'elles étaient des secteurs particulièrement déficitaires également dans ces villes-là, d'appliquer cette méthode, Action Cœur de Ville, d'appliquer ces financements, donc ces 5 milliards dont vous avez parlé.
Toujours dans les mêmes communes, hein, les 234 communes n'ont pas changé.
Dans les 234 communes du programme Action Cœur de Ville. On a décidé d'appliquer donc la même méthode et les mêmes financements à ces nouveaux secteurs de quartiers de gare et d'entrée de ville. Et donc dès aujourd'hui, en fait, hein, le calendrier est lancé. Là, les collectivités ont reçu l'ensemble des documents nécessaires. Elles vont se remettre sur la table de travail, sur l'établi, pour refaire un plan d'action 2023-2026 et intégrer ces nouveaux quartiers dans leur projet Action Cœur de Ville.
On est là pour parler d'aménagement aujourd'hui, et M. Riosek pourra nous en dire un mot, mais comment les aménageurs ont pu trouver leur place dans ce programme, comment ils ont agi pour les maires au cours de la phase 1, et surtout comment ils vont pouvoir continuer à accompagner les villes pour la phase 2.
Effectivement, nous, ce que nous avons beaucoup apprécié, c'est le partenariat, l'association des partenaires financiers, techniques, l'accompagnement des collectivités territoriales avec les responsables de projets. Et puis, c'est effectivement un autre type de commune. Jusqu'à présent, nous étions très centrés sur les grandes métropoles qui ont été les locomotives du développement en France. Et aussi bien grâce à votre action que suite au Covid, on a vu une certaine reconfiguration un petit peu. Enfin, ce n'est pas la révolution démographique, mais on a une reconfiguration où ces villes moyennes vous venez de le dire, reparties en croissance et également avec une image positive dans la presse, dans les médias, dans les colloques. Enfin, on a à nouveau en France compris qu'il n'y a pas que des métropoles et des cœurs de métropoles, mais qu'il y a tout un territoire, tout un maillage territorial. Donc ça, c'est ce qui nous semble important de percuter, qu'il y a une différenciation des besoins, des attentes dans les territoires et donc des politiques à mettre en place. Et vous êtes le grand acteur de cette différenciation. L'ouverture que vous faites sur les entrées de ville et les quartiers-gares me semble très, très porteuse, parce que ça correspond également à un potentiel physique de développement qui sera plus facile, je pense, plus accessible également en maîtrise foncière que des cœurs de ville bâtis, difficiles à restructurer, où il a fallu une ingénierie plutôt publique. Et nos sociétés, qui sont des sociétés souvent privées, je pense, auront beaucoup plus de facilité à s'intégrer dans une démarche qu'elles pratiquent au quotidien.
Oui, voilà. Oui, c'est juste. Et moi, je me souviens que j'étais là effectivement il y a 4 ou 5 ans pour parler aux aménageurs privés avec vous au lancement d'Action Cœur de Ville 1. Et on avait parlé de cet outil nouveau qui est l'opération de revitalisation du territoire, hein, puisque c'est un peu le jumeau d'Action Cœur de Ville. Hein. Et donc, quand on dit aujourd'hui que ces quartiers-là vont rejoindre Action Cœur de Ville, ça veut dire en fait que ça va être des quartiers d'opération de revitalisation du territoire. Hein. C'est la même chose, un périmètre Action Cœur de Ville, un périmètre ORT, c'est la même chose. On a essayé d'œuvrer en simplification là-dessus. Et donc, il y a notamment une des dispositions, je pense, à laquelle on avait pensé à l'époque en échangeant et qui va pouvoir être appliquée de façon intéressante, je pense, c'est celle des permis d'aménager multisites, qui va prendre un relief particulier quand on aura une entrée de ville et un centre-ville. Et je pense qu'il y a dans la négociation avec les élus, là, et puis dans le maintien d'une certaine exigence de d'investissement dans le territoire, je pense qu'il y a il y a des choses intelligentes à jouer dans une logique de panier aussi et dans une logique d'accompagnement sur un peu tous les secteurs de la ville par les acteurs privés. Mais vous avez raison, nous ce qu'on a observé c'est un retour assez frappant d'intérêt quand même pour des acteurs qui étaient totalement absents de ces villes-là. Vous avez des majors, que ce soit de la promotion, des foncières ou de l'aménagement, qui sont allés se positionner sur des villes aussi grandes que Cahors.
Mais le Covid a aidé.
Oui, et même un petit peu avant le Covid, hein, je pense que vous avez une double logique de saturation du marché, y compris des friches. Hein. Par exemple, si on prend ce sujet majeur des friches, aujourd'hui, il devient difficile de trouver des friches exploitables, même dans certaines métropoles. Et au contraire, elles deviennent des terrains de jeu privilégiés avec l'impératif du recyclage urbain dans nos villes moyennes. Et ce sont des villes qui, souvent, se sont mis très très vite en branle pour les identifier, en faire la promotion, etc. Donc je pense que voilà, ce mouvement-là va se poursuivre.
Alors, sur ce sujet des entrées de ville, 45 villes ont été sélectionnées pour tenter le dispositif. Comment ça se passe? Comment vous les avez sélectionnées? Qu'est-ce qui va se passer pour elles?
Ah oui, alors je pense que... Il y a eu un tout petit peu de confusion à la sortie de cette carte. C'est les villes qui sont prêtes à démarrer le 10. Naturellement, toutes les villes moyennes peuvent requalifier leur entrée de ville et bénéficieront des investissements Action Cœur de Ville pour ça.
Toutes les villes moyennes sont éligibles au programme. Ce que vous dites là, est effectivement, doit être souligné. Hein.
Voilà, exactement. Et vous avez sur ce sujet, alors j'espère que... l'État dans son ensemble, les pouvoirs publics, la Banque des Territoires, tout le monde y reviendront dans les prochaines semaines, hein, normalement dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de mise en lisibilité assez important hein, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se passer sur les entrées de ville.
Et une ville moyenne, la définition, c'est moins de 100 000 habitants?
Non, alors nous là je prends les villes Action Cœur de Ville.
D'accord.
Les 234.
Voilà, les 234.
Les 234.
À vrai dire, il est difficile d'en trouver qui soient des
flou,
moyennes qui exercent une centralité sur leur territoire et qui ne soient pas des banlieues de métropole, puisqu'on avait sorti le périmètre des métropoles qui ne soient pas dans le programme. Mais donc, vous avez à la fois, pour le dire rapidement, vous avez à la fois un fonds qui vient financer des déficits d'opérations dans les entrées de ville, qui est en train d'être mis sur pied entre le ministère des Finances et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, hein, et qui viendra financer des déficits d'opérations de requalification de zones commerciales d'entrée de ville, comme ça. Vous avez une offre spécifique de la Banque des Territoires en ingénierie, en prêt, en investissement, pour venir justement faire muter des entrées de ville de ville Action Cœur de Ville. Et puis vous avez, mais ils en parleraient mieux que moi, une offre de la Banque des Territoires qui est en train de constituer une foncière nationale, pour aller se positionner aussi sur la mutation de ce foncier d'entrée de ville.
François Riestec, les aménageurs sont déjà sur ces sujets d'entrée de ville, comment ça se passe?
Effectivement, alors, les aménageurs ont eu deux soucis. Ça a été la possibilité pour des opérateurs privés d'accéder à l'aide au soutien financier des déficits d'opérations. Donc ça a été un petit peu un souci. C'est le propre de cette action, d'ailleurs, que de permettre, si vous voulez, une compensation des coûts entre le prix de réhabilitation et le prix de vente. Hein. Et la deuxième problématique, c'est que nous sommes également culturellement liés à l'idée d'un marché, d'une demande locale. Donc ça a été un petit peu... la raison pour laquelle le retour, pour nous, a été un retour, je dirais, qui n'a pas été au niveau des espérances que nous avions fondées ensemble, d'ailleurs, il y a 5 ans. Et c'est pour ça que l'ouverture que vous faites des entrées de ville et des quartiers-gares nous semble positionnée plus sur notre savoir-faire, je dirais, habituel, qui est une maîtrise foncière et... des programmes neufs, clés en main, alors que la réhabilitation sur laquelle Cœur de Ville orienté, c'est plutôt de la réhabilitation de bâti, et donc c'est un petit peu hors compétence, hors champ habituel. Voilà.
Alors oui, sur les... ça je partage, hein, on a eu, je pense qu'il y a un... j'en profite pour rappeler que, en fait, dans le fonds vert qui est actuellement... lancé hein, par le gouvernement, se retrouvent à nouveau tous les outils pérennisés, tous les outils qui ont été lancés au cours de la relance, hein, le fonds Friche, le fonds de requalification des locaux d'activité, tous ces soutiens publics au déficit d'opération, ils seront là. Il y a le sujet de leur branchement plus efficace, je partage ça totalement avec vous, aux opérateurs privés, aux opérations portées directement par des opérateurs privés. Et par ailleurs, là, je livre aussi peut-être en conclusion, je livre aussi un petit réflexion personnelle, c'est que je suis d'accord avec vous que c'est une transition, ce recyclage urbain, cette rareté du foncier, qui ne peut pas reposer éternellement sur en fait un financement de déficit qui ne sera jamais à la hauteur des besoins. Il faut qu'elle trouve son modèle. Et donc, il faut aujourd'hui qu'elle trouve des modèles économiques, des modèles techniques et des modèles juridiques qui lui permettent de tourner toute seule aussi et qui lui permettent de ne pas reposer sur la gestion de l'urgence. Et donc, nous, c'est le travail qu'on a engagé à l'Institut de la transition foncière que je suis en train de lancer, qui se lance le 9 mai prochain et qui a pour but de fabriquer des outils, justement, des bilans et des outils qui permettent d'accompagner cette transition.
D'accord. Écoutez, les aménageurs seront être présents à ce rendez-vous. Alors, merci à vous.
Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Guyoni, merci François Riossec, merci Cassandre Tarvic. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la CEMOP.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.